Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Rencontre 30 minutes de discussion, de partage, d'échange sur Radio G 101.5 FM, radio-j.fr et en DAB+. Aujourd'hui, 9e épisode de Rencontre avec Anaëlle Saint-Yves, Mademoiselle Saint-Yves, créatrice de vêtements éco-responsables et sur mesure à Angers. Bonjour Anaëlle.
Bonjour Nicolas.
Comment ça va?
Bah ça va bien.
Merci d'avoir accepté de venir de Rencontre sur Radio G aujourd'hui. Anaëlle, tu m'accueilles aujourd'hui dans les locaux de Pépina, c'est ici que tu travailles, que j'ai envie de dire la magie se crée. Est-ce que tu peux nous présenter ce qu'est Pépina?
Oui, tout à fait, c'est un coworking d'artisans, un coworking créatif qui est situé entre le cimetière de l'Est et Espace Anjou, okay. Où on est une cinquantaine d'artisans à avoir chacun notre espace pour pouvoir créer et faire développer nos entreprises individuellement. Mais avec des voisins.
Mais individuellement, mais dans un collectif.
Tout à fait.
Ouais. Qui vit. Vous êtes dans les anciens locaux de l'AFPA.
Alors l'AFPA existe toujours.
L'AFPA existe toujours, mais dans des locaux qui étaient inutilisés. C'est ça. Et pourquoi est-ce que toi, tu as choisi de mettre ton atelier ici?
Parce que quand j'ai commencé mon entreprise, j'étais chez moi. Et ça m'allait bien. Sauf que j'avais déjà entendu parler de Pépina, même avant de me lancer. Le projet m'intéressait, mais voilà, je m'étais dit, on verra plus tard. Et puis, en fait, après quelques mois à travailler de chez moi, je me suis dit, ah, quand même, on sent la solitude s'installer. Ce serait chouette d'avoir des copains, enfin, en tout cas des collègues avec qui échanger sur les problématiques, peut-être aussi mener des projets communs. Et en tout cas, qu'il y ait un réseau d'échanges, c'est multiple, hein, les facettes qu'on peut trouver là. Mais en tout cas, ouais, c'était pour faire face à la solitude. Et en fait, c'est aussi un concours de circonstances. Vraiment, je m'étais dit, on verra plus tard. Et puis en fait, j'ai rencontré les créateurs de Pépina à la Foire d'Angers, où on a lancé juste une visite par curiosité. Où moi, j'ai dit non, mais moi, je suis chez moi, tout va bien, j'ai pas besoin d'un local. Et puis en fait, j'ai trouvé le lieu vraiment chouette et inspirant. Et donc, j'ai dit, bon... En fait, est-ce que je peux venir revisiter?
Et en fait, est-ce que je peux m'installer?
Bah ouais, voilà. Donc, ouais, le lieu permet suffisamment d'échanges pour que ce soit inspirant et puis ça sort. Enfin, là, tout à l'heure, je parlais de la solitude, mais ça permet aussi de se donner un cadre de travail et de dissocier la vie personnelle, la vie professionnelle.
Et ça, c'est important.
Et c'est non négligeable, ouais.
Anaëlle, tu es donc Mademoiselle Saint-Yves.
Oui.
Est-ce que tu peux nous présenter qui est Mademoiselle Saint-Yves?
Mademoiselle Saint-Yves, c'est le nom que j'ai choisi pour me représenter à travers l'entreprise. Et au sein de l'atelier, je propose différents types de services, on va dire. Okay. La création, comme tu l'as dit tout à l'heure, de vêtements sur mesure, où j'essaie de me spécialiser dans différents univers, notamment le mariage, la scène et après le prêt-à-porter selon les besoins des gens. Je fais aussi des prestations de retouche et là, je mène des ateliers aussi pour le grand public, pour l'initier à la couture.
Tu l'as dit, tu travailles sur des tenues de mariage, des costumes de scène, du prêt-à-porter, on va dire entre guillemets quotidien ou pas. Ça dépend de ce qu'on t'amène.
Ouais, en fait, le prêt-à-porter... C'est un terme assez vaste et qui ne me correspond pas trop par rapport au quotidien. Enfin, c'est un peu flou dans ce que je propose, dans le sens où les grandes marques, quand elles font une collection de prêt-à-porter, le vêtement existe déjà, ouais. Il est en magasin, dans des tailles standards, et tu te débrouilles avec ça. Moi, j'appelle prêt-à-porter un peu ma gamme de quotidien pour que ça parle aux gens, qu'on parle de vêtements plus quotidiens que ceux de cérémonie. Mais mon idée, ce n'est pas de faire un stock énorme de vêtements à porter au quotidien. Donc, j'envisage d'avoir quand même quelques petites créations pour montrer ce que je sais faire et parfois des petites créations prêtes à être vendues sur des événements, des marchés, des boutiques où l'artisanat est mis en avant. Mais sinon, je vois ça plus comme là aussi, dans le quotidien, on peut avoir un vêtement sur mesure.
Tous tes vêtements, en fait, tu les fais à la taille, à la morphologie de la personne qui vient de demander un vêtement.
Complètement, oui. C'est l'idée du sur mesure. Après, parfois, on me dit, moi, j'ai pas besoin pour tel modèle ou pour tel... Ou parce que en fait une tenue standard ça me va bien, tu peux prendre les mesures normées, mais bon, ça perd un peu en intérêt.
Ça perd de l'intérêt.
L'idée c'est de prendre les mesures de la personne, toutes ses proportions, ses longueurs, etc., et de faire un modèle qui est vraiment unique et qui, même s'il y a des formes qui vont mieux à certaines morphologies, etc., bah en fait quand c'est à nos mesures, globalement tout nous va, quoi.
Et est-ce qu'il est important aujourd'hui dans ton métier de se diversifier, de faire des costumes de scène, des costumes de mariage, du prêt-à-porter? Est-ce que c'est important de se diversifier?
Eh ben, je pense que ça dépend à qui tu poses la question.
Ok.
Moi, je trouve ça important pour moi, pour ma créativité, pour mon épanouissement au quotidien. Mais en faisant mon site internet, notamment, je me suis rendu compte que les concurrents, soit ils sont costumiers, soit ils sont créatrices, notamment, enfin, là je parle au féminin, mais il y a les deux sexes, peu importe. Soit il y a des créatrices de robes de mariée, soit il y a des costumières, soit il y a des retoucheuses, mais tout le monde ne fait pas tout. C'est vraiment un choix de chaque professionnel.
Sauf toi, mais après,
je ne suis pas la seule à faire plusieurs choses non plus, hein, bien sûr. Il y a souvent création sur mesure et retouche, quand même, les deux sont souvent liés. Mais c'est vrai que le costume de scène, j'ai un peu l'impression que c'est une spécialité à part, avec un autre cursus de formation aussi, et puis d'autres expériences professionnelles en ayant travaillé dans des théâtres ou des choses comme ça.
Et toi, qu'est-ce qui t'a fait choisir justement de travailler sur du costume de scène ?
L'opportunité à la base. Il y a des troupes qui m'ont sollicité pour faire leur tenue de scène, et ça m'a beaucoup plu. Aussi, j'ai découvert la couture tout au départ. Ce qui m'a lancée sur la couture, c'est le travail d'une costumière.
Ok.
Ouais, quand j'étais jeune, je partais en colonie de vacances. Et entre mes 15 et 17 ans, j'ai eu la chance de participer à des colonies de vacances où sur 3 semaines, on crée un séjour pendant 10 jours. Et les 10 derniers jours, enfin la deuxième dizaine quoi, on partait en mini tournée avec tous les ados qu'on était.
Okay.
Et en fait, il y avait des intervenants musicaux et une costumière qui venait et qui habillait tous les ados. Pour 15 chansons, elle faisait 20 costumes. Enfin, elle arrivait de Paris, elle prenait les mesures globales de chacun, elle repartait pour chercher les fournitures, elle revenait et en 5 jours, elle avait créé des merveilles, quoi. Et en la rencontrant, je me suis dit, ah, avec ma première paye, je m'achèterai une machine à coudre. Voilà, ça a commencé comme ça. Et donc, c'est peut-être un peu de la nostalgie, peut-être pas, mais en tout cas, un clin d'œil. On va dire un clin d'œil sur ce passif-là, sur cette découverte-là. Et puis, je continue, d'un point de vue personnel, à développer de la créativité aussi en musique, en théâtre. Enfin, il y a eu différentes phases, mais en tout cas, c'est des univers qui me plaisent, qui me parlent, dans lesquels j'évolue aussi.
Hein.
Ouais. Et donc, ça me tenait à cœur. Puis en fait, que ce soit dans le mariage ou la tenue de scène, ce que je trouve génial, c'est qu'il y a des notions de créativité qui sont quand même plus importantes que dans le quotidien, que dans les vêtements qu'on porte n'importe quel jour.
Tu te définis, et à raison, comme une créatrice éco-responsable et engagée dans une démarche de slow fashion. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ouais. Ça veut dire que l'industrie textile, c'est pas très très beau et que ça a fait partie des grosses interrogations que j'ai eues avant de me lancer vraiment. J'avais pas envie de contribuer à cette industrie que je valide pas du tout. Et il m'a semblé important d'essayer de valoriser soit des tissus qui sont dormants, qui ont déjà été produits pour des industries, pour des grandes marques, mais qui en fait sont produits en tellement grande quantité qu'il y a des mètres et des mètres qui dorment dans les stocks. Et je trouve ça trop dommage parce qu'au bout d'un moment, ça s'abîme. Et donc, bon, il y a des lois qui passent et tout ça pour éviter de les brûler. Mais à une époque, il y avait vraiment un gros, gros gâchis, une grosse pollution par rapport à ça. Et moi, je me suis dit, c'est aussi ma limite avec le quotidien, c'est que je me dis, en fait, il existe déjà tellement d'offres, tellement de vêtements qui existent sur cette planète. On n'a pas besoin d'en rajouter. Et donc, ma démarche, elle prétend pas être parfaite, parce que la route est très très longue quand même. Rien que pour connaître la provenance des tissus et tout ça, c'est encore un peu... Ouais, et puis c'est un peu opaque. Mais je me dis qu'à dans la mesure du possible, choisir des matières qui sont un peu plus responsables, effectivement, que des fibres totalement chimiques, qui vont mal vieillir, ou choisir le circuit de déstockage pour se fournir et ne pas produire du surstock, ce que je te disais tout à l'heure avec le prêt-à-porter où il y a des modèles en quantité
astronomique et voilà. Tout le monde peut en avoir un.
C'est
unique et,
ouais.
Ou quasi et tout le monde n'aura pas la même chose.
C'est ça. Et je me dis, si déjà on en consomme moins, bah ça pollue moins. Voilà. Si on achète moins de pièces mais qu'elles sont plus réfléchies, on les tient plus longtemps. Si en plus les matières permettent d'avoir une durée de vie plus longue, bah on les tient d'autant plus longtemps. Et du coup, ça en fait moins acheter, donc moins produire. Voilà, c'est plus dans la vue d'ensemble. Quoi. Après, rien n'est parfait, malheureusement. Il y a plein de... ça pose d'autres questions. En réalité, après, il y a des réalités économiques qui viennent s'appliquer.
Oui.
Là, tu vois, je m'apprête à faire une robe de mariée.
Oui.
Bah, en fonction de si tu choisis une fibre en polyester, donc chimique, ou de la soie naturelle qui est moins polluante, etc., bien que pas parfaite, parce que les véganes se réveillent aussi avec la soie, vu que c'est des petits animaux à la base. Mais en fait, le prix du tissu, c'est quand même du simple au triple, voire quadruple.
Ouais.
Donc en fait, il y a des devis qui, de toute façon, ne passent pas.
Oui, donc en fait, c'est une histoire d'adaptation entre un budget
ouais.
Et une volonté aussi écologique
c'est ça.
Et de moins consommer. Donc
ouais.
Y a une adaptation à trouver.
C'est ça, un juste milieu. Et après, je me dis que même si les fibres, on me demande un truc qui est en polyester, bah mine de rien, admettons la robe de mariée, bah il y en aura une qui sera produite, pas
200
des centaines, en attendant qu'elle trouve preneuse. Et puis bah si elles sont pas vendues, bah on les vend à moindre coût, franchement,
on les jette,
je sais pas où ça en est le fait de brûler, etc. Selon les marques, mais en tout cas il y a un gâchis qui est
impressionnant.
Important, ouais.
Comment ça se passe quand tu reçois une commande? Tu fais le patron, tu prends les mesures. Comment ça marche, cette histoire?
Bah c'est
de
ça,
création
ouais. Bah dans un premier temps, en général, pour le sur-mesure, je reçois la personne pour déjà collecter ses souhaits, qu'on soit sûr qu'on parle le même langage. Et donc, je récupère tout l'imaginaire de la personne, qui est parfois bien défini, parfois c'est très flou. Les gens ne savent pas forcément toujours ce qu'ils veulent avec précision. Et de là, j'essaie de... Alors, soit ça se fait sur le moment, soit je le fais après. Je propose des croquis, qui, pareil, ça permet de valider... Il y a des termes qui, quand on est dans le métier ou non, comme dans tout métier, il y a des termes qui nous paraissent évidents ou non, ou qui ne veulent pas dire la même chose. Et je me dis qu'avec un dessin, c'est quand même beaucoup plus parlant. Donc voilà, ça passe par une phase de croquis. Et quand ça, c'est validé, effectivement, je prends les mesures de la personne. Donc... il y en a un certain nombre. Et avec toutes ces mesures, on fait ce qu'on appelle un patron. Donc, ça correspond à un plan du vêtement. Il y a différentes façons de faire, mais moi, la plupart du temps, je fais ce qu'on appelle de la coupe à plat. Donc, ça veut dire qu'en 2D, on dessine plein de traits qui correspondent au vêtement. Donc, ça, c'est le patron. Après, on aboutit à une toile. Donc, c'est couper le patron dans un premier tissu qui sert à faire des prototypes. Et donc, la première toile, elle sert en gros de validation des volumes. Est-ce que notre prise de mesure, est-ce que l'application...
Est-ce que tout ça, c'est bien et ça va aller à la personne qui va le porter ensuite?
C'est ça.
Okay.
Une fois que ça, c'est validé, on retourne sur le 2D, sur le patron, et on fait ce qu'on appelle les transformations. Parce que donc, cette première toile, elle est moche, elle ne correspond pas du tout aux vêtements qu'on veut avoir à la fin. Mais je ne sais pas si, en fait, on veut des bretelles plus fines, un décolleté, un dos qui est de telle façon. Là, je reprends pour les robes de mariée notamment, mais si la jupe, elle a beaucoup de volume ou pas, etc. C'est à cette étape-là que ça se joue. On retrace des choses dessus. Et puis là, on refait une toile. Donc, il y a quand même de la production, mine de rien. Mais voilà, on refait une toile. Et là, ça permet à la personne de se projeter sur les volumes, sur les hauteurs, sur les... Je sais pas. S'il y a des manches, tu vois, est-ce que c'est la bonne longueur? Est-ce que c'est le bon volume? Tout ça. Et donc, parfois, il y a des retouches à faire. Donc, on retourne sur le patron. Mais il n'y a pas forcément une autre toile derrière. Et donc, à l'issue de toutes ces modifications sur le patron, en tout cas, on passe au vrai tissu qu'on a sélectionné ensemble. Je demande toujours la validation de la personne. C'est pas moi qui choisis les tissus toute seule. Moi, je propose et puis la personne me dit si ça lui convient ou pas en termes de tombée, de couleur, de plein de choses.
Ouais, c'est du sur-mesure jusqu'au bout.
Ouais. Ouais. Bah ouais, je veux que le projet il plaise à la fin, donc on valide toutes les étapes.
Que le vêtement soit porté et qu'il vive derrière.
Complètement, ouais. L'idée en plus, c'est de se sentir bien et à l'aise dans son vêtement pour pouvoir. Ne plus y penser, en fait, le jour J, à la limite. Et du coup, pour ça, moi, je trouve que ça passe par le choix après, j'accompagne, hein, mais le choix de tous les détails. Et donc, ouais, voilà. Après, on coupe dans les vrais tissus ou les vraies dentelles, enfin, peu importe. Et puis donc, je monte le vêtement. Et en général, tout le temps, je ne sais pas pourquoi je dis en général. Il y a un autre essayage pour donc valider dans les vrais tissus. Et après, il reste les finitions à faire. Donc, c'est encore une autre étape avant livraison.
Et il y a combien de temps? Ça te demande combien de temps de faire tout ça?
Ça dépend du temps qu'on a devant nous. Non, ouais, en vrai, ça dépend de pas mal de choses. Ça dépend des autres projets que j'ai en parallèle. Ça dépend de la disponibilité des gens aussi pour recaler des essayages. C'est assez variable, en vrai.
D'accord.
Ça peut aller de plusieurs mois à plusieurs semaines. Non, ouais, mais il faut compter, je sais pas, on va dire en moyenne, c'est bien quand on a 6 mois devant nous, quoi.
Ouais, pour pouvoir prendre le temps de bien préparer les choses.
Ouais.
Tu parlais tout à l'heure d'ateliers. Tu mènes des ateliers donc de couture.
Oui.
Comment ça se passe? Comment ça t'est venu?
Eh ben, bonne question.
Merci.
En vrai, ça n'a pas vraiment été une question. En m'installant, je me suis dit, ah, ce serait chouette de transmettre. Je pense parce que moi, j'ai découvert ça un peu par chance et que j'ai aimé être créative et tout ça. Je me suis dit, en fait... apprendre des nouvelles compétences, c'est toujours hyper formateur et ça peut apporter vraiment beaucoup de choses. J'avais rencontré aussi des personnes qui menaient des ateliers envers des publics vraiment défavorisés, notamment des femmes battues qui pouvaient récupérer confiance en elles, etc. Okay. Enfin, il peut y avoir un gros côté thérapeutique en fait dans la couture. Et donc, je pense que c'est petit à petit ce cheminement-là qui m'a fait me dire bah, autant continuer à transmettre. Et puis, dans ma vie professionnelle d'avant, j'avais mené des cours déjà et j'aime bien cette notion de transmission de savoir en fait. J'avais pris contact avec des maisons de quartier, mais à Angers, il y en a déjà beaucoup qui ont cette offre-là, donc ça n'a pas forcément abouti. Mais en arrivant à Pépina, je me suis rendu compte qu'il y avait déjà un petit peu cette proposition artisanale qui était mise en place. Donc je me suis dit, on continue.
Donc on peut venir essayer la couture avec toi sur des ateliers.
Oui, tout à fait. Là, l'atelier que je propose pour l'instant, on verra comment ça évolue, mais pour l'instant, c'est vraiment de l'initiation sur la machine à coudre. J'envisage à terme aussi de proposer des cours de broderie, mais pour l'instant, on est sur la machine à coudre. Idéalement, les gens apportent leur machine, dont ils ne savent pas se servir, ils n'osent pas commencer quoi que ce soit. Et puis, on bloque 3 heures et on repart normalement avec un premier petit projet qui permet de... Enfin, en fait, j'explique certaines bases et les... Ouais, j'explique les bases de fonctionnement de la machine et les points indispensables, etc. Et la personne repart avec son premier projet plus ou moins fini, je dois être honnête. Mais voilà, en tout cas, il y a la possibilité de le finir chez soi parce qu'on a compris les bases du truc
et
ça permet déjà d'être un petit peu autonome.
Annelle, on va marquer une pause musicale et tu as choisi une musique que je te laisse nous présenter. Qu'est-ce qu'on va écouter ?
Aver, Aver de La Yegros.
Très bien, eh ben, on écoute ça tout de suite.
Mi abuela, a la vuelta de casa, ay, me encontré con mi abuela. Yo andaba dando vuelta, llorando mis tristezas. Andaba dando vuelta y vuelta y vuelta. Y nomás ya me calmó y me dio su receta. Y nomás ya me calmó y me dio su receta. Me dijo que las penas se curan con alcohol. Me dijo que las penas se curan con alcohol. Y a ver, a ver, a ver, a ver si tiene.
Radio G 101.5 FM.
En compagnie d'Annaëlle Saint-Yves, Mademoiselle Saint-Yves, créatrice de vêtements éco-responsables et sur mesure. Annaëlle, avant de créer Mademoiselle Saint-Yves, tu faisais un métier totalement différent, tu étais dans la thérapie manuelle.
Oui.
Alors comment est-ce que tu es passée de thérapie manuelle à créatrice de mode ?
Waouh, un grand et long cheminement. Non, d'aussi loin que je me souvienne, comme je te disais tout à l'heure, la couture, je l'ai découvert quand j'avais 15 ans. Et donc, en fait, je me rends compte maintenant que toutes ces années, ça a été une petite idée au fond de ma tête. Il a juste fallu pas mal d'années pour que je l'écoute, cette idée-là. Une vraie reconversion passion. Et en fait, ouais, pendant mes études, j'envisageais déjà à terme de faire un mi-temps entre les deux activités, etc.
Okay.
Mais voilà, j'ai ouvert mon cabinet, j'ai pratiqué cette thérapie pendant des années et c'était chouette. Enfin, c'était une belle expérience aussi. Mais à un moment donné, je me suis réveillée en me disant, mais en fait, dans 30 ans, tu vas te réveiller et tu vas avoir, tu vas regretter de pas avoir tenté l'expérience, de pas avoir laissé place à ce rêve un peu. Voilà, là, c'est la version courte, mais vraiment, ça a duré peut-être 10 ans de ah, qu'est-ce que je fais? Ben, oui, mais en fait... Et je me souviens, à la création de mon cabinet, j'avais un conseiller de la boutique de gestion des entreprises, que je recommande à tous ceux qui se reconvertissent, qui m'avait dit que si un jour j'allais vers cette reconversion, alors que j'avais pas encore ouvert mon cabinet, si j'allais vers cette reconversion, en soi, dans les deux cas, ça prenait soin de la personne. Et en fait, okay. Ça m'a un peu fait tilt de « Ah oui, c'est pas totalement, totalement opposé. » Effectivement, il y en a un où on est dans le soin totalement mécanique. T'as une douleur et elle t'empêche de vivre. Au départ, je me disais « Bah, du coup, c'est un peu superficiel d'aller faire des robes et des... » Personne n'a un vrai besoin, quoi, par rapport à soigner quelqu'un, à soulager une douleur. C'est quand même deux mondes différents. Et puis, je me suis dit « Bah, finalement, non, si j'accompagne vraiment les gens, et c'est peut-être aussi... pour ça que je me suis orientée vers le sur-mesure plus qu'autre chose, c'est qu'il y a un accompagnement qui est permis aussi. Et en fait, à travers cet accompagnement-là, mine de rien, on débloque pas mal de choses. Il y a une mariée l'année dernière qui est venue me voir en me disant bah « Non, mais moi, le long, ça va me tasser, ça va pas m'aller, nanana, avec pas mal de complexes. » Et à la fin de nos essayages, les essayages étaient beaucoup plus fluides. Elle s'est trouvée belle dans sa robe. Enfin, il y a eu une grosse émotion de « Ok, en fait, j'assume qui je suis et ça, c'est hyper beau, quoi. »
Comment est-ce que tu t'es formé à la couture? Ou est-ce que déjà, comme tu touchais un peu depuis longtemps, t'avais déjà ce qu'il fallait?
Je dirais que ça dépend pour qui. Moi, j'ai commencé effectivement toute seule à bidouiller des trucs avec ma première machine, à faire du très expérimental. Et puis, il y a maintenant quelques années quand même, j'ai découvert Instagram. Et Instagram est une mine d'or pour les couturières et Internet d'une façon générale. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'infos, d'explications qui tournent. Donc, il y a à apprendre et à laisser. Tout ne se vaut pas. Il y a des techniques qui sont très non académiques.
Oui, comme dans tout métier
tout à fait.
Que tu apprends un peu sur Internet.
Ouais, carrément. Mais en tout cas, voilà, j'ai d'abord fait mes propres armes, on va dire. Et puis, pareil, sur Instagram, j'ai découvert qu'on pouvait passer le CAP en candidature libre. Et okay. J'ai découvert aussi une formation qui était non certifiante, mais qui permettait justement de faire des patrons sur mesure. Et donc, en 2020, j'ai passé à la fois mon CAP et cette formation de patronage. Et donc, en fait, le CAP, je l'ai passé en n'ayant jamais pris de cours. en me disant, bon, on verra bien ce que ça donne, j'ai rien à perdre. Et je l'ai eu. Et ah c'est oui. Là que ça a commencé à être un petit peu compliqué en réalité, parce que j'y allais juste « Oh bah vas-y, on essaie, mon activité elle prend de plus en plus de temps. » Voilà,
allez.
C'est rigolo. Sauf qu'une fois que tu l'as, tu te dis « Bah du coup, si j'ai jamais pris de cours et que j'arrive à avoir un premier examen, c'est que ce que je fais, ça vaut quelque chose. » Ah,
oui.
Bon bah c'est peut-être dommage de rien en faire.
Et là tu te dis « Ah peut-être que... »
Ouais, c'est ça. Et en fait, avec le CAP, j'ai postulé dans des industries qui sont autour d'Angers et des industries de luxe. Et y en a où ça ne l'a pas fait, et puis il y en a où j'ai eu la chance de faire une immersion, donc c'est avec Pôle emploi, tu fais un genre de stage. Et elle a dit, à l'issue de ce stage, il y a la référente de l'équipe dans laquelle j'étais qui m'a dit, bah, en fait, tu as carrément le profil, mais on voit bien que tu n'as jamais bossé en industrie, et il y a des codes et de la rapidité qui te manquent un petit peu. Suis une formation et reviens.
Okay.
Et du coup, merci du conseil.
Tu l'as fait ?
Je l'ai fait, j'ai suivi une formation pendant un an. Où ça reprenait des notions de patronage d'un point de vue artisanal, pas industriel, parce que c'est pareil, il y a différentes façons d'aborder le patronage. Et donc voilà, ça reprend le patronage et aussi le montage, ça s'appelle, donc vraiment quand tu es sur la machine à coudre, à monter ton vêtement. Et là, clairement, je me suis dit, ah, mais en fait, je ne sais pas du tout coudre. On a tellement repris depuis le tout départ et avec une exigence, parce que justement, dans la région, il y a de la haute couture, que je me suis dit, waouh, en fait, j'ai encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. Et voilà, j'ai eu mon diplôme à la fin de l'année, donc j'ai repostulé dans cette industrie de luxe et j'y ai un petit peu travaillé.
Et comment est-ce que tu en es arrivé à dire, là, c'est bon, l'industrie de luxe, j'ai fait le tour et je vais aller créer ma propre entreprise et faire mes propres créations à moi?
En fait, quand t'es couturière en industrie, on t'assigne à une tâche. Et pendant... Tout à l'heure, on parlait du fait qu'il y a des quantités importantes qui sont faites. Bon, en haute couture, c'est un peu limité. C'est pas la fast fashion, hein, quand même. Mais je sais pas, si t'as 500 pantalons qui doivent être créés, bah en fait, pendant plusieurs semaines, toi, t'es référente que, je dis n'importe quoi, mais de faire l'ourlet. Ou de faire la préparation des passants pour la ceinture. Ou de faire les points à la main, donc mettre juste l'étiquette et puis le bouton.
Oui.
Bon, bah quand tu sors d'une année et de plusieurs années d'apprentissage juste par toi-même, mais une année de formation aussi, où on t'apprend à faire de A à Z le vêtement, clairement...
Juste mettre un bouton.
Bah après, il n'y a pas de sous-métier et tout, c'est pas le problème. Mais pour moi, c'était trop répétitif. Et puis, t'as pas du tout d'analyse de trucs. On te dit ce qu'il faut faire et t'as... Enfin, on pouvait demander, hein, faut pas exagérer, mais t'as pas la vision globale du modèle. Tu sais pas pourquoi faut le faire comme ça selon la finition qui sera attendue, etc. Enfin, c'était pas stimulant pour ce que moi j'en attendais. Et puis, je crois que juste après avoir fait, enfin, après avoir passé 10 ans d'entreprise individuelle avec le cabinet, bah, je crois que même si c'est très insécurisant l'artisanat et l'entrepreneuriat, bah, j'ai signé, quoi.
T'avais un besoin, une envie d'y retourner aussi.
Ouais, de pouvoir, en fait, de pouvoir choisir tes propres projets, de pouvoir. Waouh!
Il y a du bruit autour de nous, un peu bizarre.
De pouvoir mener tes propres projets, savoir ce qui t'anime ou pas, et puis les pensées de A à Z. En fait, en industrie, jamais j'aurais fait des croquis, jamais j'aurais fait des choix de tissu. T'as une vision d'ensemble quand t'es vraiment à ton compte.
Et est-ce qu'il y a des... Pour devenir à son compte, être créatrice de mode à son compte, il y a des étapes, des obligations ?
Pas à ma connaissance, ou alors j'en ai loupé. Non, créer son numéro de CIREF, hein, tu vois, créer une entreprise quelle qu'elle soit. Et puis après, tu peux par contre adhérer, par exemple, là, il y a un syndicat de la couture auquel j'adhère pour avoir des formations continues, donc des choses qui et te créent du réseau et t'apportent de l'apprentissage en continu. Donc il existe des choses comme ça. Et puis j'ai la chance de connaître d'autres couturiers, couturières, et donc de continuer à apprendre des techniques par ce biais-là.
Est-ce que aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, est-ce qu'il te faut absolument avoir un compte Instagram, publier des choses régulièrement pour te faire connaître ?
Bah ouais.
Ouais.
En fait, j'en sais rien. Moi, j'ai choisi de le faire parce que j'ai l'impression... Bah déjà, parce que j'étais sur Instagram avant de me lancer, avec d'autres objectifs, etc. Donc depuis, j'ai dû archiver pas mal de contenu. Enfin, ça a évolué, mais oui, j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, si t'as pas de visibilité sur internet, c'est compliqué quand même de sortir du lot et de... En fait, les gens peuvent pas savoir que t'existes. Là, en plus, c'est chouette parce qu'en intégrant Pépina, il y a tout un réseau d'artisans, mais on n'a pas pignon sur rue, donc c'est pas non plus ça qui me... Tu vois, peut-être que si j'avais une boutique en plein centre-ville d'Angers où les gens passent devant, etc., ce serait différent. Mais là, à l'heure actuelle, j'ai pas d'autre choix. Ouais, ça passe par le numérique.
Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur ? Est-ce que c'est d'avoir une boutique, justement, au cœur de ville ? Ou est-ce que c'est pas vraiment ton idée ?
Je suis encore à m'interroger sur ça.
Okay.
Ça faisait partie des choses qui me pesaient au cabinet d'être associée à Quatre Murs. Donc, j'ai pas très, très envie. Pour l'instant, c'est pas mon rêve d'intégrer une boutique. Mais je suis pas complètement fermée sur cette idée non plus. On verra ce que ça réserve. Mais,
À suivre. Affaire à suivre.
Ouais.
Quels seraient les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui a envie de se lancer dans la création de mode ?
À son compte.
Ouais. S'il y a quelqu'un, je sais pas, qui écoute ce podcast, un auditeur, ouais, une auditrice qui a envie de faire la même chose que toi.
Bah, de bien s'entourer. Soit okay. Par un organisme qui t'épaule, soit par des proches. Moi, là, le soutien de mes proches, il est hyper précieux. J'ai eu la chance, comme je disais tout à l'heure, d'être accompagnée par la BGE à l'ouverture de mon cabinet. Ça n'a pas été le cas, là, pour la couture. Mais je le regrette un peu parce que, du coup, ça aurait été vraiment une aide et un soutien et ça t'apporte plein d'outils. Enfin, voilà, dans l'entrepreneuriat, ça, bah, c'est important d'une façon générale. Et après, pour la couture, d'être passionnée... et dans les qualités par rapport au métier, mais bon, je pense qu'on se lance pas juste comme ça sur un coup de tête, donc c'est des choses qui se savent, mais je dirais que pour être bon ou bonne couturière, faut être un peu logique, patient, persévérant, parce qu'on découvre aussi beaucoup de choses, et puis minutieux. Il y a quand même beaucoup de choses qui demandent de la précision et de la rigueur. Après,
merci.
Plus on est créatif, plus ça rajoute, hein, forcément, mais... Mais voilà, mais enfin, oui, il y a les qualités propres à la couture et les qualités propres à l'entrepreneuriat. Et ça, je pense que vraiment être soutenu, c'est
essentiel.
Essentiel.
Pour terminer, Anaëlle, où est-ce qu'on peut te retrouver, te suivre ?
Donc, numériquement, sur Instagram. Enfin, en fait, Instagram et Facebook sont liés. Donc, ouais. Mademoiselle Saint-Yves, comme tu l'as dit. Tout bien écrit, complet. Mademoiselle et Saint-Yves. Yves. Donc ça, c'est pour tout ce qui est numérique. Après, j'ai créé mon site internet qui s'appelle aussi mademoisellesaintyves.fr. Et puis physiquement, bon, c'est sur rendez-vous, mais physiquement, je vous reçois dans l'atelier à Pépina, donc 6 rue Guillaume-Lequeux à Angers. Voilà, c'est sur rendez-vous, comme je disais, mais que ce soit pour de la retouche ou pour des essayages de vêtements sur mesure, bien sûr qu'il y a un accueil sur place. Et parfois, je peux me déplacer chez les gens aussi quand c'est plus pratique.
Eh ben merci beaucoup Adèle.
Ben merci à toi Nicolas.
Mais avec plaisir. Et merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager et podcaster cette émission sur radio-g.fr ou sur Spotify. On se retrouve le jeudi 6 février à 13h pour une nouvelle rencontre et demain à 19h pour C'est le week-end. D'ici là, portez-vous bien. Bonne semaine, topette.